faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur, le grand plaisir d'être reçu au sein des bureaux de LinkedIn France, en plein cœur de Paris, par Florent Balayé, le directeur de LinkedIn Talent Solutions pour la France. Bonjour Florent, merci pour cette invitation.
Bonjour Florent, merci pour ton invitation et heureux de t'accueillir dans nos locaux.
Extraordinaire, formidable, je sais pas comment le dire. Vous avez la chance effectivement d'avoir des locaux extrêmement bien situés, puis des locaux modernes et actuels. Et puis j'ai un petit plaisir, c'est d'inviter un Florent. Parce que j'en rencontre tellement peu, je sais pas comment toi ça se passait dans ta jeunesse, mais j'en ai pas rencontré beaucoup honnêtement.
Non plus. Et non, je suis ravi également. Merci.
Bon alors, donc Florent va parler à Florent. Ça va être un petit peu compliqué à suivre pour tout le monde. On va simplement commencer par quelque chose d'important. On va sortir un petit peu de LinkedIn pour le moment. C'est toi. Qui es-tu, Florent, et quel était ton parcours qui t'a amené aux fonctions que tu occupes aujourd'hui?
Très bien. Je m'appelle donc Florent, j'ai 49 ans que je viens de fêter et je suis papa de 3 filles, okay. 12, 14 et 16 ans.
Waouh, ça doit occuper à la maison.
Ça occupe à la maison. Et après 25 ans à Paris, on a décidé de partir et j'habite à Aix-en-Provence. Et donc, je fais des allers-retours fréquents entre Aix-en-Provence et Paris pour voir les clients et les équipes.
Donc, on a un deuxième point commun au-delà du prénom, c'est que j'ai habité, moi, de nombreuses années à Aix-en-Provence. Je suis même marié à Aix-en-Provence.
Super.
Ouais, tu vois, voilà. Comme quoi, on se découvre des points communs. Je pense que ça intéresse pas tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous intéresse. Voilà.
Et pour répondre à tes questions plus précisément, qu'est-ce qui m'a emmené là, donc peut-être refaire l'origine de ma petite carrière. J'ai toujours été très intéressé par l'aspect techno des choses et j'ai été diplômé en 2000, donc si les auditeurs qui nous écoutent sont de la même génération que moi, en 2000 c'était la folie, c'était l'avènement de l'internet économie. Et j'ai eu la chance de faire un stage chez IBM et en 2000 les opportunités pleuvaient et je suis pas allé au plus offrant, je suis allé auprès de l'entreprise la plus sexy qui s'appelait Business Objects à l'époque, qui n'existe plus, qui s'est fait racheter par SAP. Et là, j'étais commercial.
D'accord.
Et j'ai gravi les échelons. J'étais ingénieur commercial junior, donc sédentaire. Et puis après, ce qu'on appelle Key Account Director dans l'industrie du SaaS en général. Et puis, chemin faisant, j'ai évolué vers un autre éditeur, un peu plus connu celui-ci, avec une résonance mondiale encore plus forte, qui s'appelle Oracle. Et j'étais patron du marché Défense et sécurité, donc le client, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur et les industriels qui gravitent autour. Voilà, j'étais en responsabilité commerciale de ces clients-là.
Ah, marché assez particulier quand même, j'imagine.
Marché très particulier, très réglementé et surtout quand il s'agit d'héberger de la donnée au sein de bases de données, je te laisse imaginer les contraintes de sécurité qu'il y a autour, mais en tout cas c'était passionnant. Et puis tous les feux étaient plutôt ouverts chez Oracle. Et puis, je suis un pur produit des réseaux et de la capacité qu'a justement un réseau à t'offrir une expérience professionnelle. Une personne que j'avais connue chez Business Objects met son profil à jour et se déclare appartenir à LinkedIn. Voilà, ni une ni deux. Bonjour Pierre, je lui fais un petit clin d'œil. Que fais-tu chez LinkedIn? Je ne comprends absolument pas le business model de LinkedIn. Est-ce que on peut se voir?
Qui à l'époque était indépendant en plus.
Qui à l'époque était indépendant. Donc ça, c'était en 2011.
D'accord.
En juin 2011, on se voit avec Pierre et Pierre m'explique un petit peu le business model de LinkedIn. Pour moi, c'était LinkedIn ne vivait uniquement des premiums. Oui. Et en fait, me suis aperçu j'ai découvert le business model de LinkedIn, qui était en effet du B2B. 95% des revenus de LinkedIn étaient et sont liés au B2B. Donc, je n'y allais pas pour un poste, j'y allais pour découvrir véritablement qui était LinkedIn. Et il m'a mis des étoiles dans les yeux. Et 6 mois après, un job s'ouvre, je postule et j'ai la chance d'avoir ce job. Donc, je rejoins l'équipe LinkedIn qui était fraîchement montée depuis 6 mois. Et j'étais, je pense, le 10e employé de LinkedIn en France.
D'accord.
Voilà. Donc, donc, j'ai commencé en janvier 2012, voilà, en tant que commercial.
Ok. 12 ans après ?
12 ans après, de l'eau.
LinkedIn a évolué, et toi aussi, du coup.
Alors, l'environnement compétitif a évolué. Il y avait un acteur franco-français qui jouait dans la même cour que la nôtre, avec le sort qu'on lui connaît. Et puis, nous, on était véritablement challenger à l'époque. Et puis, chemin faisant, les équipes ont grossi, les directions des ressources humaines étaient de plus en plus enclines à nous recevoir, comprenaient de plus en plus ce qu'on essayait de leur vendre, et puis comprenaient la mission et la vision qui était celle de LinkedIn. Donc pendant un an, moi, en 2012, j'ai fait la promotion de cette offre logicielle pour permettre à des directions des ressources humaines de s'appuyer sur notre plateforme pour recruter. Voilà. Et j'ai eu la chance de grandir avec l'entreprise. D'ailleurs, il y a un parallèle probablement avec aussi le nombre de membres. À l'époque, il y avait 2,5 millions de membres. Tout à l'heure, j'imagine qu'on reviendra sur le nombre de membres qu'il y a aujourd'hui sur la plateforme. Voilà, il y a eu une croissance qui était très forte. J'ai bénéficié de cette croissance et j'ai grandi avec LinkedIn et LinkedIn France.
OK.
Voilà. Et aujourd'hui, je suis donc directeur commercial pour l'offre qu'on appelle Talent Solutions. Ce sont l'ensemble des produits logiciels qui permettent à des directions de ressources humaines de recruter, développer et fidéliser leurs employés. Voilà.
OK. Merci pour ce résumé. Si on vient sur LinkedIn aujourd'hui, LinkedIn en France, c'est quoi aujourd'hui? Quelques chiffres. Alors, l'idée, c'est pas d'en sortir trop, mais c'est quelques chiffres qui sont importants et qui vont parler aux personnes qui nous écoutent.
LinkedIn, en nombre de membres, c'est 29 millions. Tout à l'heure, je disais qu'en 2012, il y en avait 2,5. Aujourd'hui, c'est 29 millions. Donc, ce qui veut dire que c'est une représentativité très, très forte de la population active. On estime que c'est 90% de la population qui est en âge de travailler, qui a un profil LinkedIn. La deuxième donnée, je ne veux pas vous assommer de données, mais je pense que c'est important de noter que l'essentiel de nos membres sont en dehors de la sphère parisienne. Voilà, c'est 80% de nos membres qui sont dans les territoires et en dehors de Paris. C'est des choses qui n'étaient pas vraies il y a 10-12 ans.
C'est pas qu'un outil de cadre parisien, quoi.
Ça n'est pas qu'un outil de cadre et de cadre parisien, puisque 29 millions, il n'y a pas 29 millions de cadres qui vivent à Paris, et il n'y a pas 29 millions de cadres non plus en France. Donc, il y a une représentativité sur la plateforme qui est celle de la population active française, avec des gens qu'on appelle des gens de terrain, de première ligne.
Ouais.
Je peux être infirmier, je peux être responsable d'un un rayon en supermarché, je peux être cadre dans la finance, dans la banque. Peu importe, tout le monde a sa place sur LinkedIn, la raison pour laquelle aujourd'hui on a en effet 90% de la population active sur la plateforme en France.
Ouais, et chose qui m'a marqué quand j'ai préparé aussi, ce sont les plus jeunes. Effectivement, au départ de LinkedIn, parce qu'on a à peu près le même âge, on y allait effectivement quand on avait déjà un petit peu d'expérience ou éventuellement junior. Mais aujourd'hui, je vois même des jeunes qui ont 18-19 ans qui créent leur profil sur LinkedIn. C'est un sujet pour vous, effectivement, de faire venir, je dirais, au plus tôt les jeunes sur cette plateforme?
Alors, les jeunes ont cette particularité d'être nés aussi avec des outils digitaux, et donc ils ont une capacité à les appréhender qui était probablement plus élevée que notre génération. Moi, je suis né en 1975 pour que les auditeurs puissent prendre la mesure. Ouais, j'ai dit que j'avais 49 ans, donc ils savent le faire. Mais en tout cas, oui, il y a une appropriation de la part de cette génération qui arrive beaucoup plus forte. Et j'en veux pour preuve le dynamisme qu'il y a dans la création de profils. On estime aujourd'hui qu'il y a 2 millions d'étudiants en France qui utilisent LinkedIn pour développer leur réseau.
Ouais, donc sujet super important parce que les entreprises et les collectivités de France souffrent, on va dire, en recrutement. On va dire que le marché est compliqué. On le vit tous. Toutes les entreprises en parlent, clairement. Même si l'économie est un petit peu plus tendue ces derniers mois, le marché de recrutement reste, lui difficile. Il y a peut-être des réflexions à avoir quand on est RH en entreprise, qu'on a mis en place une stratégie éventuellement de relation école, de se dire, mais quand je prends la parole, si je suis DRH ou si je suis manager, d'aller vers ces cibles très tôt, en fait.
Absolument. Mmh. Et puis, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que LinkedIn qui est en capacité de le faire,
mais
sur un site emploi traditionnel, on retrouve en général des gens qui sont en recherche d'emploi. Et la force de LinkedIn et la promesse de LinkedIn, c'est pas d'ailleurs nécessairement pour un membre de trouver un emploi. C'est aussi de trouver un emploi. Moi, Florent, je suis sur LinkedIn, bien évidemment, mais je ne suis pas en recherche d'un emploi. Toi, Florent, tu as un profil LinkedIn. J'ai pas la sensation que tu sois en recherche d'un emploi.
Merci de ne pas m'appeler si vous êtes un cabinet de recrutement.
Et donc, j'en veux pour... C'est la démonstration que les entreprises, là où il y a le vivier de talent le plus important, c'est bien sur une plateforme qui n'est pas un site emploi, mais un réseau professionnel comme celui de LinkedIn.
Et c'est là toute la subtilité, effectivement, de l'outil. Et on va y revenir. Alors justement, si on zoome sur l'évolution de LinkedIn, on va s'intéresser peut-être effectivement à un sujet majeur que j'ai commencé à aborder, qu'est le recrutement. Quelles sont les grandes évolutions que tu as vues en termes de recrutement grâce à LinkedIn et surtout celles que tu vois arriver en 2024. Et je veux prendre aussi pour partage une enquête que vous avez réalisée et un document que vous avez produit, dont je mettrai le lien en descriptif pour tout le monde, qui s'appelle L'avenir du recrutement en 2024 et que je ne peux que conseiller à tout le monde de lire. Donc voilà, moi j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet et comment toi tu vois les choses évoluer. Comment tu les as vus évoluer, comment tu les as vus grandir en 12 ans, du coup, et comment tu les vois évoluer ces prochaines années sur ce thème précis.
Très bien. Je voudrais rappeler que même s'il y a en effet énormément d'évolutions sur le marché du travail ou de l'emploi, que la vision de LinkedIn depuis sa création demeure la même. C'est-à-dire c'est de créer une opportunité économique pour l'ensemble de la population active mondiale. Alors une opportunité économique, lorsqu'on raisonne candidat, c'est en effet la possibilité de trouver un emploi. Donc ça, la vision, elle, n'a pas changé, bien que le contexte économique puisse avoir évolué, que les habitudes des directions des ressources humaines aient évolué, elle, la vision de LinkedIn ne change pas. Les évolutions majeures, moi, que j'ai constatées depuis ces nombreuses années, c'est l'appropriation de la technologie par les fonctions RH. Souvent, on disait que c'était une fonction qui était un peu vieillissante, avec une plus grande difficulté à appréhender la technologie. Et je m'inscris en faux. Véritablement, les directions des ressources humaines ont probablement même été celles qui ont été confrontées les premières à des outils qu'on n'appelait pas avant intelligence artificielle, mais qui l'étaient en fait. Voilà. Ça, c'est la première tendance, la capacité que ont les directions des ressources humaines à embrasser le changement et le changement technologique. Cette capacité aussi que les directions des ressources humaines ont à lier un lien très très fort avec le business. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'on appelle chez nous le « time to hire », le TTH, c'est pas beau, mais on l'aime comme ça, a drastiquement réduit. Je me souviens, lorsque j'ai commencé chez LinkedIn, il y avait une période pendant laquelle on mesurait ça. Aujourd'hui, on estime que cette période a été réduite de 30%.
D'accord.
Et ça, c'est grâce à la capacité qu'ont les directions des ressources humaines à s'appuyer sur des outils pour être beaucoup plus efficaces et efficients et de resserrer ce lien avec le business. Et puis, l'autre tendance que j'ai vue et habitude, c'est, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est cette volonté de développer les compétences des individus. Moi, j'ai 49 ans, j'ai cité les entreprises dans lesquelles j'étais précédemment, Et je parle de LinkedIn parce que je parle de ce que je connais, mais je sais que dans d'autres entreprises, c'est pareil. Mais cette véritable volonté qu'ont les directions des ressources humaines à développer les compétences de leurs individus, de leurs employés, pardon, parce qu'il ne faut pas oublier que la première richesse d'une entreprise, c'est véritablement ses employés. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, c'est pas véritablement ses employés, c'est les compétences de ses employés qui font la richesse de l'entreprise. Encore une fois, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on sait que les compétences évoluent très très rapidement, on parlera probablement d'obsolescence des compétences, eh bien les entreprises et les directions des ressources humaines ont l'extrême responsabilité de justement faire en sorte que les employés soient toujours à jour de leurs compétences. Et donc, elles sont là pour recruter les meilleurs talents, retenir ces meilleurs talents et développer pendant la durée de vie de l'employé, en tout cas en présence dans l'entreprise, de le développer, quoi. C'est la responsabilité des directions des ressources humaines. Et ça, je sens que c'est vraiment un marché qui est, enfin, en tout cas, quelque chose qui est vraiment top of mind chez les directions des ressources humaines.
OK. Tu as commencé à aborder un sujet qui est l'intelligence artificielle.
Oui.
L'IA. LinkedIn appartient à Microsoft. Oui. Aujourd'hui, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une information depuis 2016, je crois. Microsoft aussi est une entreprise en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce aux 49% qu'ils détiennent dans OpenAI. Comment est-ce que l'IA demain va dynamiser le recrutement, à ton avis, de manière beaucoup plus forte que ce ne l'a été, peut-être de manière moins visible que maintenant ça l'est pour le grand public, en tout cas?
Alors, en effet, l'intelligence artificielle polarise les débats. Je pense pas que ici j'ai à vous convaincre de l'amplitude du phénomène. Et je vais te donner, ainsi qu'aux auditeurs, un chiffre qui est assez éloquent. Depuis janvier 2023, il y a une progression en pourcentage de 75. C'est-à-dire que 75%, mois après mois,
d'accord,
nos membres ajoutent leurs compétences en matière d'intelligence artificielle. Donc ça peut être Gemini, ça peut être ChatGPT, OpenAI, enfin toutes les compétences relatives à l'intelligence artificielle.
Sur l'ensemble des membres, c'est-à-dire ensemble des métiers.
Exactement, sur
d'accord.
l'ensemble des...
Ok.
Plus spécifiquement sur la fonction RH. Aujourd'hui, je prends un recruteur et que je divise les tâches qu'il doit accomplir, il y a un certain nombre de tâches que l'intelligence artificielle serait et est en capacité d'automatiser et de simplifier. Le sourcing, par exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'un sourceur ne pourrait pas, demain, demander à un outil de lui donner la liste des 100 meilleurs candidats pour être commercial dans la vente de logiciels qui parlent anglais, qui a une expérience aussi un peu technique, qui est la compétence A, B et C? Est-ce que ça, véritablement, on peut se donner le droit de penser qu'un outil serait en capacité de faire mieux qu'un sourceur? Je pense que la réponse est oui, puisque la qualité du prompt, qui elle est rédigée par l'individu, donnera lieu probablement à une augmentation du vivier de talent auquel je pourrais avoir accès. Et ce qui est marrant de noter, c'est que lorsqu'on a lancé notre produit boosté à l'intelligence artificielle, on s'est aperçu que le job du recruteur avait été un peu redéfini et que l'impact était très positif, puisque l'augmentation, il y a 16% d'augmentation du temps passé avec les candidats. Donc, je D'accord. faisais moins de tâches répétitives
okay.
ou à valeur ajoutée moindre, mais en tout cas, je passais beaucoup plus de temps avec les candidats. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle présente une réelle opportunité. Bien entendu qu'elle va modifier un certain nombre, transformer un certain nombre de fonctions, mais elle va aussi développer d'autres compétences. Puisque si je suis recruteur et que je dois passer plus de temps du coup avec un candidat, eh bien probablement que je vais développer des compétences, alors on les appelle
soft skills.
Les soft skills, ouais. Voilà. Ma capacité à créer du lien, ma capacité à convaincre un candidat qu'il faut absolument rejoindre mon entreprise. Voilà, c'est donc peut-être que je vais abandonner un certain nombre de skills, de compétences, mais je vais en développer d'autres et qui ont aussi leur intérêt.
Ok. Alors, les recruteurs qui utilisent aujourd'hui et qui peuvent aujourd'hui réaliser des prompts, oui. Vous les accompagnez, vous les formez à réaliser des prompts parce que tout le monde n'a pas forcément la même appréhension du sujet. Est-ce que du coup, vous, vous êtes support à ce sujet? Donc, et comment?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une excellente question. Et en effet, je crois que LinkedIn a toujours souhaité accompagner la transformation des directions des ressources humaines. Et je pense dire aussi qu'on est plutôt bon dans la manière d'accompagner. Donc, on a en effet des commerciaux qui ne sont jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés de consultants, qui sont en général des anciens recruteurs d'ailleurs, pour passer le témoin à nos clients et les faire monter en compétence dans l'appropriation des outils. Comment rédiger le meilleur prompt? Comment s'assurer que ce candidat-là va me répondre? Donc, il y a, bon, on est bien entendu payé à vendre un certain nombre de produits, mais on est aussi payé à cette faculté qu'on aura aux clients de renouveler leur contrat avec nous.
Et oui, et ça, ils vont renouveler s'ils l'utilisent, s'ils sont à l'aise, bien sûr. Donc vous avez, voilà. c'est même important. Enfin, moi, je suis recruteur. Quel que soit, je dirais, l'outil que j'achète et que j'utilise, j'ai envie de comprendre comment il fonctionne. J'ai envie d'aller le titiller et m'aider sur le sourcing. Moi, je suis un ancien sourceur, des booléens, j'en ai fait des kilomètres. Voilà. Bon, c'est sympa, mais à un moment, c'est lourd.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est lourd, mais j'imagine que dans tes booléens, tu avais aussi des biais.
Ah ben, c'est certain. Voilà. C'est certain.
Alors, on me dira, mais oui, mais lorsque je fais un prompt, j'ai un biais. Sauf que je peux faire l'effort, le temps d'un prompt, de m'enlever tous mes biais. Et on s'aperçoit, c'est hyper intéressant, que lorsque je source au travers d'une intelligence artificielle, j'enlève les biais et donc j'augmente mon vivier de talent. Tout à l'heure, on évoquait les difficultés qu'ont les directions des ressources humaines à recruter dans un contexte un peu tendu. Aujourd'hui, si tu utilises LinkedIn, boosté à l'IA et très orienté sur les compétences, tu multiplies par 10 le vivier de talent que tu as en capacité d'atteindre.
D'accord.
Voilà. Et donc ça, c'est un des bénéfices aussi de l'intelligence artificielle, et on en a parlé tout à l'heure, d'orienter aussi ses recherches sur les compétences.
Oui, qui était un sujet que je voulais aborder, parce que justement, ça permet d'ouvrir aussi ses chakras, d'éviter les biais. Hein, tel que tu l'as exprimé, et d'oser peut-être se dire, mais tiens, cette personne, cet homme, cette femme, auquel j'aurais peut-être pas imaginé, ou parce qu'elle a pas le bon intitulé de poste ou la bonne école avec mes recherches booléennes, forcément, c'était sur des sujets comme ça. Tu te trompes de combat aujourd'hui en 2024. En tout cas, je referai en 2024, faut plus que je le fasse comme ça. Ça, c'est certain si je suis recruteur. Si on vient justement sur cette partie compétences, j'avais entendu ou lu que vous aviez plus de 40 000 compétences sur LinkedIn, donc un chiffre très très fort, alors qui mélange des compétences, des hard skills et des soft skills. Hein, forcément, il y a un petit peu des deux. Moi, je verrais vraiment sur les soft skills parce que ça, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Comment vous faites pour que je puisse effectivement m'attacher plus aux compétences des hommes et des femmes qui sont membres de LinkedIn et aller les chercher? Parce que est-ce que c'est du déclaratif de membre? Est-ce que il y a des outils qui vont vous permettre d'analyser les soft skills? Est-ce que vous allez vers ce genre de sujet ou pas?
Donc, en effet, quand il s'agit des compétences, on a la faiblesse de penser que LinkedIn est plutôt bien loti pour observer ce qui se passe dans le monde, mais en France en particulier, sur les compétences, et ce pour au moins trois raisons. La première, c'est que nos membres, ils nous renvoient des signaux, et nous, on analyse ces signaux. Tout à l'heure, j'évoquais qu'il y avait une progression de 75% mois après mois des compétences relatives à l'intelligence artificielle. Bon, là, je ne te parlais que de l'intelligence artificielle. Ouais. Bien entendu, il n'y a pas que ces compétences-là que l'on observe. Donc, un, c'est notre capacité qu'on a à restituer aux clients ce que les membres nous renvoient en termes de compétences. D'ailleurs, il y a un classement annuel des compétences les plus en vue ou les plus en progression. La deuxième chose qu'on a qui nous permet de mesurer les compétences, c'est les jobs que publient aussi les entreprises. On est en capacité de dire, ben voilà, sur les 100, 200, 300, 400, 500 000 jobs qui ont été publiés par nos clients, quelles sont les compétences qui reviennent le plus. Et la troisième manière aussi de capter les tendances en matière de compétences, c'est, on n'en a pas encore parlé, mais LinkedIn a acheté une entreprise qui s'appelle Linda. Aujourd'hui, on l'a rebaptisée, ça s'appelle LinkedIn Learning. Mm-hmm. Et donc, c'est la capacité qu'a un membre de venir sur une plateforme pour consommer du contenu relatif à du développement de sa carrière ou de compétences. Et là, on sait quelles sont les compétences qui sont les plus développées. D'accord ? Donc, trois manières pour nous déjà de décrypter un certain nombre de tendances. Les entreprises, les membres et les membres sur ce qu'ils consomment pour développer comme compétences. Tu l'as dit, aujourd'hui, une entreprise qui appréhenderait un candidat ou un individu uniquement sous le spectre de son background en termes de education. Donc, il a fait une école de commerce. C'est vachement bien.
Et puis, il a fait la même que moi, en plus.
Il a fait la même que moi. Donc, il doit bien. Et en plus, il était dans une entreprise réputée, reconnue du secteur. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière d'appréhender un individu, puisqu'un individu, il est fait de plein de choses. Et il est fait, surtout, de compétences qu'il a acquises au sein de ses précédentes expériences. Donc, le membre a la possibilité de déclarer qu'il a, en effet, la compétence A, la compétence B et la compétence C sur son profil. Et de l'autre côté, les recruteurs ont la possibilité, dans leur filtre de recherche, de dire, moi je cherche telle compétence. Et c'est là où l'intelligence artificielle agit. C'est que si j'ai pensé à la compétence Python, est-ce que le recruteur sait que Python est très proche d'un autre langage qui s'appellerait X ? Je suis pas béton en Python.
D'accord.
Il lui suggère, regarde, l'ensemble des candidats qu'on a recrutés ou des membres qui ont Python, ils ont aussi cette compétence-là. Je t'incite très fortement à ajouter cette compétence de langage informatique parce que tu vas augmenter ton vivier. Donc c'est pas la magie, c'est la force de l'intelligence artificielle qui aide les entreprises et donc les candidats à se retrouver.
Ok. Est-ce que vous allez... là, c'est une question, là, pour le coup, Novid, peut-être que j'ai tout faux. Est-ce que vos outils d'IA vont aussi analyser les posts que réalisent les membres ? C'est-à-dire que je suis membre, je poste. Est-ce que vous allez analyser les posts et se dire, tiens, cette personne, par ses publications, elle s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, elle a l'air vraiment experte. Et du coup, peut-être que toi, recruteur, quand on fait suite au prompt, je te conseillerais d'aller voir Jean-Jacques ou Marie qui régulièrement... parle de ce sujet ou exprime ses opinions sur tel ou tel point.
Je sais qu'aujourd'hui, les recruteurs n'ont pas accès à cette donnée.
Le recruteur, sauf à aller vraiment regarder le profil.
Regarder le profil visuellement.
Ce qui prend du temps.
Ce qui prend du temps. Donc aujourd'hui, un recruteur ne va avoir accès qu'aux déclaratifs relatifs aux compétences, formation, etc. Mais pas sur l'activité qu'il a en tant que membre du nombre de postes, des sujets, des postes qu'il a publié, etc.
Ouais, non, parce que tu vois, dans ma vision de recruteur, je pense à des métiers, par exemple, dans les métiers de la tech, où les personnes sont, des fois, ont des profils qui sont assez simples, ils n'ont pas beaucoup détaillé leur profil et qui, à côté, prennent la parole et tu te dis, OK, cette personne, je n'avais pas vu qu'en fait, elle était super, super intéressée par, super douée par, et que ça peut être une piste de d'approche, en tout cas.
Je note.
D'accord, OK. Bon. Je vais finir directeur technique de LinkedIn. Non, mais voilà. Bon, en tout cas, c'était mon imagination qui m'amenait vers ce genre de choses. Oui, je veux bien que tu reviennes sur LinkedIn Learning.
Oui.
Parce que c'est un outil qui est, je pense, encore assez méconnu. Trop méconnu de nous tous, pour être très, très honnête. Et qui est ultra riche. Et Récemment, vous avez, là on parlait, je vais prendre l'IA, on revient sur l'IA, vous avez ouvert, je crois, 250 formations accessibles à tout le monde et gratuites sur sur l'IA avec des experts sur Midjourney, sur ChatGPT, etc. Et qui, waouh, enfin je veux dire, c'est, je mettrai le lien d'ailleurs, faut que je retrouve le lien, je mettrai dans le résumé. Comment est-ce que vous allez effectivement communiquer? Comment est-ce que vous allez peut-être dire à tout le monde, mais oser y aller? Et puis nous, on vous forme en plus. Donc, on vous aide à vous former.
Bien sûr. Donc, tu as raison. Aujourd'hui, l'offre LinkedIn Learning est méconnue, même si on sent un appétit de plus en plus fort pour les clients d'adopter ce genre LinkedIn ou pas d'ailleurs, des solutions relatives à la culture apprenante des entreprises. Je reviens juste un instant sur la publication qu'on a faite sur la plateforme, en effet, d'ouvrir au plus grand nombre, sans aucune restriction, 250 cours relatifs à l'intelligence artificielle. Donc ça va du niveau vraiment... celui qui débute dans l'intelligence artificielle au niveau le plus avancé. Et tu vois, c'est très en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la vision de LinkedIn, c'est créer une opportunité économique pour chaque membre de la population active. On sent qu'il y a un appétit très très fort et des entreprises et des membres sur l'intelligence artificielle. On n'a pas toutes les réponses d'ailleurs. Je crois que les entreprises aujourd'hui, même si certaines voient un grand nombre, une réelle opportunité de se développer en la matière, et on sent qu'il y a un appétit. Donc c'est toujours dans réduire le gap. Donc le gap, en français, on appelle ça comment, Florent? Un gap.
Le gap. Moi je dis le gap.
Un gap. Ah bah oui, mais ouais. Fossé.
L'écart.
L'écart.
L'écart. On va dire l'écart.
Voilà. Donc c'est 250 cours. Participe justement à réduire l'écart entre qu'est-ce que veulent les entreprises, qu'est-ce que veulent les membres, est-ce qu'on a la capacité de rejoindre l'un et l'autre, une offre et une demande. Cette offre LinkedIn Learning, elle est hyper intéressante parce que elle répond à aujourd'hui au moins un besoin, je l'évoquais en introduction, très très fort, c'est quelque chose de très prégnant et que moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de DRH et c'est un sujet qui est vraiment top of mind pour eux, en dehors de l'intelligence artificielle, c'est la mobilité interne. Une des raisons aujourd'hui pour lesquelles les salariés quittent leur boîte, c'est parce qu'il y a une stagnation professionnelle.
Ouais.
Je crois que c'est le troisième critère en ordre de priorité, donc c'est fort. J'ai l'impossibilité d'avoir accès à une opportunité en interne pour plein de raisons. Soit l'entreprise est limitée technologiquement, soit l'entreprise est très décentralisée et il y a un effet silo qui empêche, par exemple, à une maison mère d'avoir une vue transversale de l'ensemble des jobs. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Il y a aussi aujourd'hui... une réalité à laquelle les entreprises font face, c'est que c'est très dur de recruter. Est-ce que demain, recruter en interne, ou en tout cas de mettre en place un programme de développement des compétences en interne pour promouvoir la mobilité interne, est-ce que ce serait au final pas plus avantageux financièrement, mais à plein d'égards, recruter coûte de l'argent, développer des compétences coûte de l'argent, voilà. Eh bien moi, Florent, demain, si je vois un job aux US, avec un spectre un petit peu différent, mais si on considère que j'ai allé 80% des compétences pour faire ce job chez LinkedIn. Est-ce qu'il vaut mieux m'embaucher moi, enfin me garder et m'envoyer là-bas, ou recruter quelqu'un dont on sait que le ramp-up, c'est-à-dire la phase d'acculturation à l'entreprise, est allée entre 6 et 9 mois, on est plus proche des 9 mois.
Ouais, voilà. Je pense, oui.
Donc LinkedIn Learning, aujourd'hui...
Puis on ne sait pas si la mayonnaise culturelle va prendre en plus.
Et on ne sait pas, et bon... On a tous en tête des cas où ça se passe pas forcément bien. Des fois, ça se passe très bien, et tant mieux. Mais en effet, mais il y a cette contrainte quand même qui est liée à la difficulté du recrutement. Et la deuxième chose aussi qui drive l'appétit des directions des ressources humaines pour mettre en place des outils de ce type-là, c'est l'obsolescence des compétences. Je lisais... C'était Accenture qui a fait une étude il y a 3 ans et qui disait qu'une compétence dans les années 80 avait une durée de vie de 30 ans. Mmh. Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence, c'est entre 4 et 5 ans. Je demande aux auditeurs de retenir qu'un chiffre, c'est celui-ci, et qu'on a 29 millions de membres aussi en France. Mais plus sérieusement, c'est incroyable de savoir qu'en effet, aujourd'hui, une compétence ne dure que 5 ans, mmh. et que d'ici 2030, 50% des compétences que je fais pour faire un job X va évoluer.
D'accord.
Donc, d'un côté, il y a une difficulté relative à recruter. Il y a une obsolescence des compétences. Et en plus, les compétences doivent aller toujours plus vite dans leur apprentissage pour qu'une entreprise puisse garder ce momentum et d'être au top de son jeu, quoi.
Ouais.
Et donc, tout ça fait que la culture d'apprentissage au sein de l'entreprise est en train de marquer une tendance qui est très, 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 très forte. Et il y a un appétit aussi de la part de nos membres. 70% de nos membres ont envie d'apprendre et de développer des compétences.
Très, très, ça c'est certain. Et en quoi LinkedIn peut aider, moi je suis RH en entreprise, peut m'aider à ma mobilité interne? J'ai peut-être la faiblesse de penser, c'est qu'à mon avis, LinkedIn, c'est plus de choses sur des collaborateurs d'une boîte que le DRH de sa propre boîte. Parce que vous avez des fois tout le profil qui est complet. Vous avez les compétences qui sont complétées, voire les collaborateurs de ma boîte qui suivent des formations, si on peut le dire, moi, DRH, sur LinkedIn, ils ne demandent pas à leur DRH. Est-ce que demain, ou aujourd'hui, ou demain, LinkedIn peut être un vrai outil en mobilité interne, comme il l'est aujourd'hui un outil de recrutement?
C'est une excellente question, Florent. Le premier challenge d'une entreprise qui veut faire de la mobilité interne, c'est de faire un état de l'art de la situation, des compétences et des forces en présence. En général, un référentiel de compétences d'une entreprise est obsolète le jour même où on le met en place.
Oui.
Et donc, en effet, on est interrogé par les entreprises. Mais est-ce que LinkedIn, demain, ne pourrait pas servir comme référentiel de compétences de mes propres employés, puisque vos données seraient plus à jour que la nôtre? Alors, on n'a pas en tant que tel une solution qui permettrait de déverser d'un point A qui serait LinkedIn dans une base de données qui serait un point B de l'entreprise. Par contre, on a des outils. Pour pas le nommer, ça s'appelle Talent Insights. La raison pour laquelle je le nomme, c'est qu'il y a Insights dedans. C'est un cockpit de pilotage accessible par un DRH. Je veux connaître maintenant, tout de suite, l'ensemble de mes collaborateurs qui ont la compétence en intelligence artificielle, qui ont plus de 3 ans de boîte, qui étaient avant dans la boîte Voilà. Je veux cette photographie-là. J'ai la capacité de dire, sur 1000 employés, j'en ai que 5 qui ont une compétence digitale ou relative à l'intelligence artificielle. Eh bien, j'aurai la possibilité, donc moi, dirigeant de cette entreprise, je sais que j'ai énormément de projets digitaux à venir. Est-ce que véritablement 5 employés qui ont cette compétence vont me permettre d'atteindre cet objectif? J'aurai la possibilité de dire, moi, je veux mettre en place une culture où les employés ont accès à du savoir pour soit développer une compétence existante qui est naissante pour la porter à un point un peu plus de maturité plus forte, ou même apprendre une compétence. Et donc, c'est à ça que la culture apprenante et des outils type LinkedIn Learning peuvent aider les entreprises à développer les compétences de leurs collaborateurs pour demain avoir le job Et je vais même plus loin, Florent. Cet outil dont je te parle, qui s'appelle LinkedIn Learning, lui aussi est boosté à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Souvent, j'ai le syndrome, je me connecte à cette plateforme, j'ai accès à des milliers de contenus, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et le premier problème, c'est comment est-ce que je m'assure que les gens qui ont accès à cette plateforme consomment du contenu?
Oui.
Et de manière intelligente. Eh bien, on a réfléchi à ça Et en fait, on a développé un outil qui permet de déclarer en fait ton intention. Je suis Florent. Je fais le job aujourd'hui de, je sais pas, je suis consultant en communication. Demain, je veux être directeur financier.
Ok.
Ok. De là, il va ensuite analyser l'ensemble du parcours que tu dois réaliser.
Ok.
Basé sur les compétences qui sont nécessaires pour effectuer ton job de demain. Et là, il va te décrire très précisément les étapes d'apprentissage par lesquelles tu dois passer pour demain avoir le job de tes rêves.
C'est top ça. Et ça, en tant que membre de LinkedIn, je peux avoir ça ?
Je peux avoir ça.
Ou faut être premium ou...
Il faut en effet avoir soit un contenu premium ou alors je suis salarié d'une entreprise qui a fait l'acquisition de ce logiciel-là et qui le met à disposition de l'ensemble de ses employés.
D'accord, c'est les deux possibilités. D'accord, moi je suis membre premium, donc il faut que je regarde, enfin je suis Sales Navigator exactement, pour être très précis, mais il faut que je regarde effectivement...
Ce ne sera pas dans Sales Nav, ce sera dans la partie premium.
Dans la partie premium, ok. Ah mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça.
Ouais.
Ça c'est juste effectivement extrêmement intéressant. Et ça va m'indiquer aussi par exemple, en lien avec LinkedIn Learning, tiens je te conseille de suivre la formation A, B, C, D.
Exactement.
Voilà, exactement. Si tu as envie d'évoluer vers ce métier-là, ce job-là, je t'encourage à acquérir ces compétences-là, quoi.
Oui, et puis, absolument, c'est exactement ça, Florent.
Okay. Top.
Et puis, en tant que salarié, je verrai aussi l'ensemble des jobs qui sont ouverts dans mon entreprise.
OK.
Voilà, et je pourrai y postuler et développer mes compétences pour obtenir le job de mes rêves.
OK. Voilà. Super intéressant. J'ai envie de venir sur un sujet qui est le personal branding, d'accord ? Et le personal branding des RH. La population que tu fréquentes et que je fréquente quotidiennement. Je pense qu'on est tous aujourd'hui convaincus que le personal branding, c'est important quand on est un professionnel, qu'on a une expertise. Et quand on est RH, quel que soit le métier au sein de la fonction RH, on est expert. Quel conseil tu donnerais, toi, aujourd'hui aux professionnels RH qui sont peut-être inscrits sur LinkedIn, enfin, je l'espère, mais qui n'osent pas publier, n'osent pas s'engager, n'osent pas effectivement parler. Et est-ce que d'ailleurs c'est un sujet pour vous de préoccupation ? Est-ce que vous avez envie que toi, tes clients ou tes non-clients aujourd'hui peut-être, qui sont RH mais qui ne sont pas encore clients de LinkedIn, Talent Solution, prennent la parole ?
La réponse est oui. J'ai très envie, en effet, qu'ils prennent la parole. Après, c'est vrai que la personnalité de chacun fait que, en général, on dit que son activité, quand on regarde son activité, reflète qui je suis dans la vraie vie. Et bon, moi, lorsque je prépare un rendez-vous, en effet, je regarde l'activité de mon interlocuteur, mais je ne me fie pas qu'à ça. Donc, déjà, je regarde l'ensemble des sources, je regarde LinkedIn, mais pas que. Mais bien entendu, j'encourage vivement les directions des ressources humaines, un DRH ou un recruteur même, à prendre la parole sur LinkedIn parce que, en fait, on s'aperçoit que l'impact sur les autres employés, c'est un sentiment de fierté. C'est waouh, mon CEO, mon DRH, ou même la personne qui m'a recruté. Elle prend la parole sur LinkedIn. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un sentiment souvent de fierté des employés lorsqu'il y a les dirigeants. Alors, ta question est très direction des ressources humaines, mais j'irais même un cran plus haut avec même des gens du board, tu vois.
Ben oui.
Et ça, on voit une tendance quand même très, très forte à l'acculturation des directions des communications qui accompagnent les CEO, des DRH à prendre la parole parce que il y a aussi des sujets qui méritent une portée très forte. La diversité, l'équité, l'inclusion et tout un tas d'autres sujets qui sont très positifs et bénéfiques pour tout le monde. Absolument.
Ouais, ça c'est clair. Hein. Je rajouterai en lien l'enquête qui est sortie dans les Échos du 7 mars. Je sais pas si vous l'avez tous lus, qui parlent des CEOs les plus influents sur LinkedIn et sur X, mais en particulier sur LinkedIn. C'est hyper intéressant, effectivement, de voir que des CEOs d'entreprises, et là, en l'occurrence, c'était SBF 120, prennent la parole et osent s'exprimer. Alors, des gens vont me dire, oui, mais ils ont des agences qui gèrent leur community management, etc. Peut-être, peut-être pas, mais c'est pas... Mais au moins, ils prennent la parole et ils s'expriment en tant que Monsieur X ou Madame Y, CEO de l'entreprise. Et moi, je suis candidat, objectivement. Je vois mon peut-être futur CEO qui s'exprime. Bah, ça peut me rassurer, quoi. Parce qu'entre un discours d'une entreprise et le discours d'une personne de l'entreprise, on connaît les chiffres, hein, c'est, l'impact n'est pas le même et on sait qu'on va plus croire une personne qu'une page entreprise. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai dans votre algo, vous valorisez les pages plutôt personnelles que les pages entreprises et c'est pas neutre. Voilà. Et c'est vrai que sur la fonction RH, moi, je vois encore beaucoup de RH, j'en rencontre beaucoup, qui sont présents, certes, mais qui disent, ah, mais j'ai rien à dire, si je m'exprime mal, je vais être regardé, etc. Mais en fait, mais vas-y, quoi. Enfin, lâche-toi sur le sujet. Je remettrai pour mes auditeurs assidus l'épisode que j'ai enregistré avec Maud Grenier autour de du personal branding des professionnels RH. Mais je pense que c'est clé aujourd'hui, en tout cas.
Oui. Et tout à l'heure, tu évoquais l'accompagnement que l'on a donc auprès des recruteurs qui sont des utilisateurs de nos solutions. Et on a aussi la possibilité, avec un certain nombre de critères néanmoins, mais d'accompagner des directions des ressources humaines, des RH, dans, on appelle ça un « rock your profile ».
Ok.
Voilà, donc en effet, certains profils méritent d'être mis à jour, tant sur la photo que sur les compétences qui sont mises.
Que sur le rattachement à l'entreprise, des fois, des choses toutes bêtes, mais...
Ouais. Mais on a la possibilité, en effet, d'accompagner aussi des boards RH ou même un peu plus haut, dans ce rock your profile.
Ok, bon, le temps tourne, Florent. C'est passionnant. Tu as énormément de choses à nous dire. Je trouve ça super chouette. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a un sujet peut-être que j'ai pas abordé et tu te dis tiens, j'aurais aimé en parler? En fait, je veux pas le syndrome de l'entretien de recrutement où après l'entretien de recrutement, tu rentres chez toi et tu dis ah mais j'ai oublié de le dire au recruteur. Et là, t'aurais bien de nous confier quelque chose.
Non, est-ce que ça n'a rien à voir avec l'entretien, je peux?
Bah oui.
Comment est-ce que je vais mesurer que ce que je dis, les gens, ils aiment?
Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, il y a l'audience.
Ouais.
Hein, il y a l'audience du podcast.
Ouais.
Et puis, il y a le relais et les posts que je vais faire sur LinkedIn ou que peut-être toi, tu feras sur LinkedIn sur ton épisode. Et effectivement, est-ce qu'ils interagissent et qu'ils sont intéressés et les retours? Et je peux t'assurer qu'effectivement, sur les interviews que j'ai, les invités ont des retours en direct, et j'en ai régulièrement avec des messages privés sur LinkedIn assez, assez nombreux.
Donc, et s'ils peuvent me faire aussi un feedback constructif, c'est-à-dire, moi, c'est mon premier podcast.
D'accord.
Et donc, poser sa voix, réfléchir en même temps que répondre, enfin, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est une expérience hyper agréable. Voilà. Et si les gens peuvent me donner des feedbacks, avec plaisir.
D'ailleurs, si on veut te contacter, si moi, je t'écoute, si j'ai envie de te contacter...
LinkedIn.
Tu réponds vraiment?
Ah, moi, je réponds à tout.
Parce que tu dois être pas mal sollicité vu ton métier.
Je mets un peu de temps, mais je réponds toujours.
Ouais. Je vous conseille le petit message automatique dans votre messagerie LinkedIn. Moi, je l'ai mis en place.
Ah oui, exact.
Et ça, c'est juste...
Est-ce que tu as vu cette fonctionnalité aussi où on a la possibilité de prendre un rendez-vous?
Ah, je ne l'ai pas encore vu,
ouais,
celui-là.
C'est super. Ah, bah, prendre un rendez-vous avec moi. Ouais.
Sur LinkedIn?
Ouais. Bon, sur ton profil.
Bon, ça, il faut que je le mette. Hein.
Ouais.
Ça, c'est certain. Donc, ok, top. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast? Soit des professionnels RH que tu connais, des DRH que tu connais, où tu te dis, tiens, cet homme, cette femme, je trouve qu'ils font différemment leur métier et qu'il serait intéressant d'entendre.
Écoute, il y a... Alors, ce sujet de la mobilité interne, moi, il me passionne. Et on a eu la chance de travailler auprès d'une direction des ressources humaines d'une très grande banque qui s'appelle Crédit Agricole. Et qui a mis en place une politique de mobilité interne. Et nous, on a outillé cette démarche.
D'accord.
Et c'est une personne qui a une vision extraordinaire de la fonction RH et justement du souhait de développer les compétences de ses collaborateurs. Et c'est c'est une très grande promotrice de cette mobilité interne. Donc, je t'encourage Et son nom? Elle a contacté. Bénédicte Chrétien.
Ok, d'accord. Ok, top. T'écoutes des podcasts? Parce que là, c'est ton premier, mais est-ce que toi, t'es auditeur de podcasts? Est-ce que ça t'arrive ou pas? Soit, t'as le droit de pas écouter de podcast, hein?
Mais je crois que tu vas pas me croire.
Vas-y.
Le premier podcast que j'ai écouté, c'était ce matin.
Ah, ok. Et c'était lequel?
Ah bah, c'est un DRH.
Ok, c'est génial.
Il s'appelle pas Florent.
Non, il y a trop de Florent, on va se perdre.
Non, mais c'est marrant que tu m'en parles parce que c'est... Non, mais vraiment, le nom de l'entreprise, c'est Aircall.
Oui.
Le nom de la personne, j'ai oublié.
D'accord, je retrouverai.
Et il parle de l'intelligence artificielle et la fonction relative au recrutement.
Ok.
Et de l'impact. Et j'ai trouvé passionnant. Ça dure 22 minutes. Alors, il est interviewé par deux personnes de chez LinkedIn. Mais non, c'est passionnant. Il est top, tu peux le contacter. Et franchement, il en est vraiment bien.
Ok, très très clair. À côté de ça, tu es plutôt lecture, tu es plutôt série, tu es plutôt... C'est quoi tes sources de contenu, à part LinkedIn?
Je lis beaucoup la presse.
Ouais.
Ouais, je dois avouer que je lis peu de bouquins.
Ouais.
Je lis beaucoup de presse, je passe pas mal de temps dans le TGV... Et c'est vrai que je lis beaucoup la presse, mais alors ça c'est très large. Hein.
D'accord.
C'est très 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 large. Sur LinkedIn, j'apprends énormément et
bien sûr,
c'est normal. Mmh. Non mais je dois avouer que maintenant que j'ai accès à LinkedIn Learning, je te promets qu'il n'y a pas un mois où j'ajoute pas une compétence à mon profil.
D'accord.
Vraiment.
Ok.
Non, c'est canon. Et puis mes sources. Après, j'ai plein d'occupations en dehors du travail aussi.
Oui, j'espère.
Qui sont sources aussi de réflexion sur la vie en général, mais
ok.
Et qui m'aident dans mon job aussi.
Bon, bah top. Un grand merci, Florent. Un grand merci pour ton accueil une nouvelle fois, pour ta transparence et tes réponses de qualité. J'espère qu'il y aura d'autres podcasts, que je t'entendrai sur d'autres podcasts maintenant que tu as pris goût au sujet et que tu vas devenir addict à ce média, en tout cas à ce type de média.
Bah, sans nul doute, tu m'as donné le goût. Merci Florent pour ton invitation, j'ai trouvé l'expérience très agréable.
Merci, à bientôt à tout le monde et pour un nouvel épisode. Au revoir.
C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!